Une fois par mois, ils sont dans les studios de CFM Montauban. Ce sont les libraires montalbanais pour toute l'actualité de l'ALMA. L'ALMA, c'est l'association des libraires montalbanais. Vous pouvez retrouver ces libraires sur librairiemontauban.fr et une fois par mois sur les ondes de CFM. Aujourd'hui, autour de la table, Jacques Griffaud du Scribe.
Bonjour.
Hugues Dedy du comptoir de Sildavier. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Maurice Beau de la librairie Beau Livre, Place Nationale.
Bonjour à tous.
Comme chaque fois, un auteur, des coups de cœur et puis l'actualité des libraires montalbanais. Et je pense que l'auteur, c'est vous qui nous le présentez, Jacques Griffaud.
Oui, mais je pense que Maurice ajoutera un petit peu ensuite son grain de sel sur cet auteur. L'auteur, c'est Philippe-Marie Bernadou. Il a publié déjà trois recueils de poèmes et il vient de publier un livre qui s'appelle Cadaqués, Allées simples chez L'Arpenteur. L'Arpenteur, c'est une collection de chez Gallimard, une collection assez prestigieuse dans laquelle, par exemple, Philippe Delerme avait publié la fameuse petite gorgée de bière qui avait été tirée à des millions d'exemplaires. Alors on souhaite à Philippe-Marie Bernadou le même succès. Alors Cadaqués, Allées simples, eh bien, c'est l'histoire d'un homme qui vient signaler la disparition de sa compagne, Léa, au lieutenant de la police de Cadaqués. Léa, avec laquelle il a eu la veille au soir une altercation un peu dans un restaurant. Faut dire que s'ils s'entendent parfaitement sur le futile, sur l'essentiel, tout les sépare. Et puis après cette altercation, ils ont été se promener comme ils font régulièrement, car ils ont un rituel, ça fait plus de 20 ans qu'ils viennent à Cadaqués, le plus souvent possible. Et là, deux ou trois fois par an, chaque année d'ailleurs. Et après le restaurant, ils vont sur la plage, se promener le soir, et puis ils sont remontés par les petites rues. Et au détour d'un jardin, d'un square, il s'est retourné et Léa n'était plus là. Léa a disparu, il vient donc signaler sa disparition. Alors il va donc raconter, Léa et lui, deux étrangers qui sont follement amoureux de Cadaqués. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Qu'ils viennent y trouver? Eh bien, sans doute, l'éclat que chacun voit dans les yeux, l'éclat que chacun voit briller dans les yeux de l'autre. Léa est peintre. Lui, il n'entend rien à la peinture. Ni aux gens, d'ailleurs, dira Léa. Lui, c'est avec les pierres qu'il a de l'affinité. Elle vient chercher, elle, la lumière, et aussi les grandes ombres, ce qu'ils appellent les grands transparents, les disparus. Alors, les disparus, c'est les ombres de Dali, de Magritte et de sa femme, d'Éluard, le poète, et de Gala, sa femme d'ailleurs qui un jour ne repartira pas avec lui mais restera avec Dali. Sans oublier Duchamp qui fascine tant Léa. Alors voilà un petit extrait sur ce passage-là, Duchamp. C'est donc lui qui parle et il raconte cela au lieutenant de police. Et Marcel Duchamp. Je crains chaque fois que je prononce son nom de perdre Léa, tellement il la fascine. Inutile de l'ôter, lieutenant, il est mort depuis longtemps. Léa le tient pour le plus grand artiste du siècle. Vous lui demanderez pourquoi. Moi, ce qui me touche, c'est que Duchamp n'est pas pour Dali l'ami des fêtes et de l'oubli. Duchamp est la mémoire et la fidélité. Le seul des surréalistes à le soutenir, après son exclusion du groupe, à l'imposer pour la grande exposition de New York. Tout ce que j'en sais, lieutenant, c'est Léa qui me l'a appris. Donc voilà. Alors, c'est une belle. Je trouve que le livre est une belle déclaration d'amour d'abord à Cadaqués. On brûle d'envie d'aller sur les traces de Léa. Et je pense que le syndicat d'initiative locale devrait en acheter une palanquée. C'est un livre écrit dans une très belle langue, je trouve. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est poète, déjà, l'auteur est poète. Et qui nous fait toucher au plus profond des personnages, mais sans pour autant que leur mystère disparaisse, s'évanouisse tout à fait.
Et puis c'est un auteur qu'on connaît déjà un petit peu dans cette émission.
Moi je me suis retrouvé aussi sur cette lecture et Jacques tout à l'heure en conclusion de notre chronique
lèvera le mystère.
Voilà. Et oui parce que voici le roman court sous la forme d'une confession véritable chronique d'une disparition annoncée. Alors le récit commence comme on l'avait précisé Jacques sur les certitudes de cette dispute et tout au long l'homme nous entraîne dans sa quête mémorielle sur les chemins et les ruelles de ce coin de côte méditerranéenne où plane omniprésente l'ombre du maître catalan Dali. En fait, au fil des pages, on se surprend à se retrouver en balade initiatique dans un tableau du maître catalan où, au détour d'un détail, en arrière-plan, l'auteur nous livre un petit bout de monde avec l'élégance de ton de son pessimisme raisonnable. C'est curieux. Pourquoi, en évoquant cette quête descriptive, j'ai présent à l'esprit un autre tableau, celui le tableau d'un maître flamand, Bruegel, La chute d'Icare. Paysage côtier où, sous le soleil, dans un coin du tableau, le personnage principal, tout petit, disparaît dans les flots calmes d'une réalité marine, souligné par la présence indifférente au drame d'un laboureur tout à sa tâche pastorale. Alors Philippe Marie Bernadou nous guide pas à pas vers une sortie de scène universellement redoutée, peut-être celle de l'oubli. Voilà, je vais extraire juste un rapide petit paragraphe. Ce jour-là, comme les autres jours, nous arrivons au phare. Ce n'est qu'une borne de rien du tout, un phare mécanique d'entrée de rade. Mais là, les goélands nous frôlent, le vent nous nettoie. On n'entend plus que les vagues qui s'acharnent à poncer des atomes de rochers. Elles ont tout leur temps et eux aussi. Vous l'avez aussi certainement ressenti. Partout où il y a un phare, on est au bout du monde. Et puis, plantés sur le dernier caillou qui croit surveiller l'horizon, les phares nous soulagent de notre inutilité.
Cadaqués à l'simple, donc de Philippe-Marie Bernadou. Allez, lever le mystère, on le connaît dans cette émission, Philippe-Marie
Bernadou.
Oui, on le
connaît dans cette émission. Alors je vais d'abord vous dire ce qu'on en dit sur la quatrième de couverture du livre. On dit qu'il est né en 1956 à Pamiers et que Philippe-Marie Bernadou est libraire à Montauban. Alors effectivement, il est libraire à la librairie de Loche. Voilà.
Et il est régulièrement présent donc dans cette émission. Voilà pour l'auteur.
Oui, c'est aussi un roman. C'est aussi un roman où l'on rit. Enfin, c'est une novella plutôt. Hein. C'est un roman où il y a beaucoup d'humour aussi hein, sur cette écriture extrêmement fine et légère. On rit aussi souvent aux déclarations de ce personnage.
Cadaqués à l'simple de Philippe-Marie Bernadou. Voilà pour l'auteur du mois. Nous passons maintenant à vos coups de cœur. Et c'est vous qui commencez, Hugues Dedi, avec La fille perdue.
Oui, absolument. Alors c'est un livre qui aurait pu figurer dans la rubrique des bouquins foutraques. C'est Fille perdue d'Alan Moore, édité aux éditions Delcourt. Un petit mot quand même sur Alan Moore. Alan Moore, un jour j'en parlerai un petit peu plus longuement. C'est quand même un auteur anglo-saxon particulièrement connu, puisque c'est le scénariste de V pour Vendetta, Les Watchmen, From Hell, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Si vous avez vu les films comment tirer de ces BD, oubliez-les, ils sont tous extrêmement mauvais, et plongez-vous dans les livres qui sont nettement plus cérébraux. C'est le problème hein, avec Alan Moore. Alan Moore, c'est vraiment un auteur, on va le dire franchement, très intello, et il est, me semble toujours extrêmement difficile de faire d'ouvrages cérébraux des films populaires sans qu'ils soient forcément ratés. Alors là, c'est une œuvre de jeunesse qui s'appelle « Fille perdue ». Il faut savoir que c'est un livre particulièrement sulfureux et décadent qui a engendré beaucoup de polémiques aux États-Unis, si bien qu'en France, depuis de longtemps, on se demandait si on allait sortir cet ouvrage ou pas. Et enfin, Delcourt a décidé à sortir « Fille perdue ». Le livre est relativement simple. Nous y retrouvons trois personnages particulièrement connus, Dorothée, Wendy et Alice. Donc toutes les trois issues du magicien d'Oz de Peter Pan et d'Alice au pays des merveilles, et Alan Moore replace ces trois nous les connaissons enfants. Alan Moore les imagine adultes, se rencontrant dans un chic hôtel autrichien juste avant la Première Guerre mondiale, et ils s'interrogent, ils demandent que sont-elles devenues. Une fois adultes, ont-elles conservé cette trace de pays imaginaires et fantastiques dont elles sont issues ? C'est un ouvrage particulièrement, c'est un ouvrage érotique, et c'est un ouvrage aussi, une inspection psychanalytique de ces trois personnages. C'est pourquoi que je dis que c'est un ouvrage sulfureux et totalement décadent. qui est absolument à proscrire des enfants. C'est vraiment une lecture adulte. D'ailleurs, il y a un sticker sur la couverture qui dit « Interdit aux moins de 18 ans ». Et effectivement, c'est quand même assez hard. Cet ouvrage a été créé en collaboration avec son épouse, que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert à l'occasion de la lecture de ce livre. Elle s'appelle Melinda Gebbie. Et c'est une illustratrice et une dessinatrice absolument géniale, puisqu'elle réutilise globalement les œuvres de Moucha et puis tous les peintres et graphistes qui ont marqué l'art déco et l'art nouveau. Voilà, un livre absolument admirable. C'est un gros pavé de 350 pages qui coûte quand même assez cher, mais la classe d'Alan Moore est au rendez-vous.
Voilà, bah c'était le premier coup de cœur, celui du Duc de Die. Deuxième coup de cœur, La bouche pleine de terre, Jacques Griffaut.
Alors, La bouche pleine de terre, c'est un ouvrage d'un serbo-croate qui s'appelle Branimir Cepanović. C'est un livre qui a été édité pour la première fois en France en 1975 et qui vient d'être réédité maintenant dans la collection Motif, qui est une très jolie collection de petits livres. C'est un livre qui fait 75 pages et c'est une histoire absolument fulgurante et très étonnante, comme vous n'en avez sans doute jamais lu. Un homme a décidé soudainement d'aller mourir dans son pays natal, le Monténégro. Il veut fuir la tentation de vivre, donc il est dans le train, il descend du train dans une gare inconnue, en pleine nuit, et puis il se met à marcher, comme ça la nuit, en allant vers son destin. Il s'enfuit le plus loin possible, donc, des hommes, de tout ce qui aurait pu le pousser à chercher aide ou consolation. Et au petit matin, ses pas le conduisent devant un campement où il y a deux chasseurs qui sont là. Il a envie de s'approcher d'eux, de leur demander un peu de nourriture, mais cela anéantirait sa décision d'aller au-devant de la mort. Il rassemble alors tout son courage pour rebrousser chemin. Il dévale la pente et il part en foulant l'herbe haute à grands pas maladroits. Les deux chasseurs sont d'abord surpris qu'il ne soit pas venu les voir, parce qu'on est tout de même dans un désert un peu là où il y a des habitudes tout de même de rencontres. Et puis, il décide de se lancer à sa poursuite pour lui expliquer qu'il était stupide de sauver et qu'ils peuvent l'aider. Voilà. Et alors, ce récit fulgurant, voilà comment il commence, et la poursuite va durer 70 pages. Alors, ce qui rend le livre tout à fait extraordinaire, c'est que l'auteur fait alterner le point de vue des deux chasseurs et celui du fugitif. Hein ? C'est-à-dire qu'on a une page fugitif, une page les deux chasseurs, etc., ce qui se passe dans leur tête et ce qui se passe. Alors, parce que très vite, au désir de venir en aide aux fugitifs, vont se succéder des sentiments fort différents. Oui, d'abord, la colère. Pourquoi est-ce qu'il part, etc. Et puis peu à peu, cette colère va se transformer en haine, de plus en plus farouche. Et cette haine est avivée par la chaleur, parce qu'il fait très chaud, et l'incapacité de rattraper le fugitif. Voilà un berger, par exemple, qui va passer par là, et qui va reconnaître le fugitif. Il va dire « Oh, je le connais, il m'a volé des moutons, etc. » Bon, très bien. Alors il va se joindre au groupe des deux chasseurs. Et puis ensuite, d'autres personnes qui vont s'agglomérer un peu au groupe. Et petit à petit, ça va être une meute qui va être déchaînée dans une chasse à l'homme, dont elle ne connaît, cet homme dont elle ne connaît ni l'identité, ni l'histoire. Et lui, cet homme, dans cette course folle, physiquement épuisante, au milieu d'une nature absolument luxuriante, eh bien, il va atteindre un état de conscience de soi et du monde de plus en plus lumineux. Alors voilà, par exemple, un petit extrait. C'est donc le fugitif qui parle. Il pensa alors que tout n'était peut-être pas perdu. S'il vivait pleinement chacun des instants à venir comme s'il était le seul et dernier, peut-être finirait-il par avoir l'impression qu'il avait eu sa part de vie. Sa vie tout entière se réfléchit soudain avec une effrayante netteté. Elle se mit à danser devant ses yeux. Il comprit soudain que l'existence de l'homme n'a de sens que grâce à l'amour et à la beauté, c'est-à-dire ce qui faisait totalement défaut dans cette image laide et terne de sa propre vie. Alors les poursuivants, eux, se rapprochent, et puis les poursuivants vont se rapprocher. Ils deviennent proches presque les uns des autres, ils sont presque identiques, ils se rassemblent par leur aspect extérieur. Les voilà trempés de sueur, le visage crispé, épuisé aussi, courbés en deux. Nous courions au même rythme et respirions du même souffle, comme une meute de chiens rassés qui ne puisent leur force que dans la fureur et la haine. En fait, cette haine que nous avions pour lui était comme un désir terrifiant et merveilleux. C'est un texte absolument hallucinant et puissant sur la fuite, sur le désir de mort, sur le salut, sur le mécanisme de la haine, sur l'instinct grégaire aussi. Et c'est un véritable choc de lecture. C'est un petit livre
C'est le numéro 300 de cette collection Motif, et c'est un livre qui coûte 5,50 €, que je vous recommande vivement.
Merci Jacques Griffeau, c'était votre coup de cœur, La bouche pleine de terre. On redonnera toutes les références des ouvrages en fin d'émission, références que vous pouvez retrouver bien évidemment sur librairiemontauban.fr, librairie étant au pluriel. On en arrive maintenant dans cette émission consacrée à l'actualité des libraires montalbanais, justement à l'actualité. Et c'est Hugues Dedy qui va commencer cette page avec une expo sur les affiches de mai 68, me semble-t-il.
Oui, absolument. Jusqu'à fin mai, la librairie, on pourra découvrir une cinquantaine d'affiches issues de mai 1968. Alors, pour le petit mot, il faut savoir qu'en 68, l'affiche n'a pas du tout le caractère que nous lui connaissons aujourd'hui. D'abord, les affiches sont rares, l'affichage sauvage est totalement inexistant, et puis les procédés d'impression sont quand même beaucoup plus rudimentaires. Durant mai 68, un groupe d'étudiants issus des Beaux-Arts ont créé l'Atelier Populaire, très vite fréquenté par des graphistes, des peintres, et ils ont commencé à créer et surtout à imprimer et à coller des affiches de façon un petit peu sauvage dans Paris, et très vite ça a été la stupéfaction parce qu'on n'était pas habitué justement à voir à la fois ces affiches et puis ces slogans extrêmement forts pour l'époque. L'Atelier Populaire a fait un petit peu tache d'huile puisque c'était fréquenté à la fois par des étudiants qui venaient commander des affiches, par des ouvriers également en grève qui venaient eux aussi proposer ou commander des affiches ou prendre des affiches pour les coller dans les rues, et puis également se former à cette technique, la sérigraphie, pour créer après dans d'autres universités ou dans des usines en grève, d'autres ateliers populaires d'imprimerie. Donc voilà, 50 affiches proposées au comptoir de Sildavi jusqu'à fin mai.
Cap sur la Chine, une expo de peinture pour vous, Jacques Griffeau.
Oui, alors une expo de peinture, eh bien, en ce moment, au Scribe, au premier étage, donc, nous vous proposons des œuvres récentes de Hempel. Hempel est un peintre d'origine allemande qui vit dans la région. Et cela jusqu'au 6 mai. Le 6 mai, ce sera le vernissage de l'exposition des photographies d'Hervé Couton, qui est un Montalbanais aussi. Alors je tiens à signaler que à partir de mercredi commence au cinéma Le Paris un Cap sur la Chine. Ça va durer jusqu'au 20 ou 22 avril, je crois. Le Scribe y sera avec des livres d'auteurs chinois ou des livres ayant trait à la Chine. Et je signale aussi que samedi prochain, le samedi 12 avril, donc, Peter May, qui est un auteur écossais, qui vit dans le Lot et qui est un passionné de la Chine et qui a écrit des polars très intéressants qui se passent en Chine, dans lequel il met ensemble un jeune commissaire chinois et une enquêtrice, enfin plus exactement une femme qui est médecin légiste américaine. Alors il les met ensemble pour des enquêtes et vous pouvez imaginer qu'il y a un choc culturel qui est assez fort entre eux. Et Peter May sera donc là le samedi, il participera à un débat à l'issue de la dernière séance de film projeté le samedi soir.
Retour à mai 68 avec un pavé dans la vitrine, Maurice Beau.
Ou plusieurs même pavés, oui, en effet. Je vais recevoir des pavés dans ma vitrine, puisque j'exposerai des œuvres, donc des sculptures et des objets qui ont trait à 68 et autour du thème du pavé.
Voilà. Ça va être la révolution, place nationale.
Ah oui, oui. Sous les pavés, la place.
Surtout qu'il n'en manque pas des pavés, place nationale.
Un vent d'insurrection va souffler sur cette place.
Vive la commune, livre.
Qui est donc Anna Gavalda, Jacques Griffeau?
Eh bien écoutez, Anna Gavalda, si vous ne la connaissez pas, c'est que depuis plusieurs années, vous avez vécu dans une grotte où vous avez été totalement absent. Vous avez été totalement en dehors de l'Hexagone. Je ne devrais même pas dire l'Hexagone, parce qu'elle est traduite dans 25 pays, je crois. Donc Anna Gavalda vient de publier son dernier roman qui s'appelle La Consolante, chez cet éditeur talentueux et découvreur de talent qui s'appelle Le Dilettant. C'est aux Dilettantes qu'il y a 9 ans, elle avait publié un premier recueil de nouvelles qui avait un très beau titre, qui était un alexandrin. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Voilà. Et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'on l'avait reçue. On avait une des premières librairies en France à l'inviter. Et Anna nous fait l'amitié, vous voyez, 9 ans après, de revenir au Scribe. Alors elle sera là donc mercredi 23 avril à 18h pour les signatures. Et à 19h, on aura une rencontre avec elle.
Une autre rencontre avec un autre auteur, c'est Guillaume Trouillard, Hugues Dedi.
Absolument, Guillaume Trouillard sera à Montauban le samedi 3 mai. Alors un petit mot quand même sur Guillaume Trouillard. Guillaume Trouillard, c'est le fondateur des éditions de La Cerise, une toute petite maison d'édition spécialisée BD qui se trouve à Bordeaux. J'aurai le plaisir d'ailleurs d'exposer à la vente les ouvrages des éditions de La Cerise. Moi j'ai connu Guillaume Trouillard avec son confrère Samuel Stento pour la signature d'un ouvrage, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin bref, peu importe. Et j'avais été particulièrement surpris par la forme de leur dédicace, puisqu'ils envahissent les tables avec des peintures, des couleurs, enfin ils font énormément de choses. Et le dernier ouvrage de Guillaume Trouillard, Colibri, a reçu le prix BD des lecteurs de Libération, prix BD 2008. Alors, de quoi s'agit-il ? Colibri, c'est un pamphlet écologique contre la déforestation, le matraquage publicitaire, la cupidité des promoteurs immobiliers, la vacuité des discours, l'arrogance des nantis, etc. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement écologique. Et en contrepoint, on a, ou en écho, je ne sais pas, une luxuriance de couleurs, une explosion de d'aquarelles. Enfin, c'est vraiment un ouvrage assez, assez étonnant. Donc, nous le recevons le samedi 3 mai, je ne raconte pas de bêtises, oui, samedi 3 mai. Vous pourrez déjà rencontrer Guillaume au Scribe à 11h30, je ne me trompe pas ?
À partir de 11h30, oui, c'est voilà. Dans le cadre des apéros du Scribe, car tous les samedis, nous nous mettons au vert. Voilà.
Et à partir de 15h, au comptoir de Sildavi, pour Colibri et pour une présentation des éditions de La Cerise.
Nous arrivons au terme de cette émission mensuelle de l'ALMA, l'Association des libraires montalbanais. Je vous propose de faire un tour de table pour repréciser les références des ouvrages et des auteurs que vous nous avez présentés aujourd'hui.
Eh bien, avec Jacques, j'ai eu le plaisir de me faire l'écho de Cadaqués, Elle est simple, de Philippe-Marie Bernadou, à L'Arpenteur, chez Gallimard.
Ensuite, Fille perdue, d'Alan Moore et Melinda Gibby, aux éditions Delcourt.
La bouche pleine de terre, de Branimir Stepanovitch, aux éditions Motif.
Eh bien messieurs, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition des Voix de l'ALMA, l'actualité des libraires montalbanais. Toutes les références des ouvrages que vous nous avez présentés aujourd'hui sont sur votre site internet librairiemontauban.fr et cette émission est podcastable à partir du moment où elle a été diffusée sur CFM sur le site cfm.radio.free.fr. À dans un mois.
À bientôt.
Merci, au revoir.